Face à Duhamel, avec, nous sommes avec Julien Aubert, vice-président des Républicains, ancien député de Vaucluse. Bonsoir,
bonjour,
M. Aubert.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, Alain Duhamel. Donc, on a vécu hier en direct le rejet du budget, enfin, du moins de la partie recette. Est-ce que Michel Barnier, Premier ministre, garde vraiment la main ou est-ce qu'il est dépassé, Alain Duhamel?
Je dirais que Michel Barnier est un Premier ministre habile, et que c'est un chef de la majorité maladroit. C'est un Premier ministre habile parce qu'il vient de marquer un point. Il vient de marquer un point contre la gauche, mais il vient de marquer un point incontestable. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était ce qu'il souhaitait voir se passer depuis le début, ce qu'il avait essayé d'organiser, c'est-à-dire un texte ressemblant extraordinairement au programme de la gauche, qui n'a été soutenu que par la gauche, que les autres, aussi bien l'extrême droite que ce qui correspond au reste de la majorité, ont repoussé sans la moindre difficulté. Maintenant, on retrouve le texte originel pour le budget de Michel Barnier. C'est lui qui ira au Sénat, où il est solidement accueilli, très positivement. Ensuite, il y aura la commission paritaire mixte, qui sera à son avantage. Et le texte final qui sera examiné sera son texte. Donc, on peut dire, ici est bien pris, alors que Dieu sait que ça n'est pas facile dans les conditions actuelles. Bon, en même temps, comme chef de la majorité, et chef de la majorité, c'est un des grands attributs du Premier ministre, quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances, comme chef de la majorité, c'est pas du tout ça. Là, il vient de se mettre dans une situation franchement difficile et, si j'ose dire, inutile, qu'il aurait pu éviter, en passant un accord privilégié avec Laurent Wauquiez, qui a immédiatement hérissé toutes les autres composantes de ce qui reste de la majorité. En plus, Wauquiez, avec son tempérament, est allé évidemment se vanter à TF1 de l'accord qu'il avait obtenu et qui était censé protéger les retraités, ce qui au passage est faux. Mais enfin bref, c'est ce qu'il a pu expliquer. Puis il a eu le cynisme incroyable. Ensuite, le lendemain, à l'Assemblée, aux questions de l'Assemblée d'actualité, d'interroger Michel Barnier sur cet accord, comme si tout le monde n'avait pas été mis au courant la veille à la télévision. Évidemment, tous les autres sont maintenant vent debout. Tout ça est quand même assez dangereux, parce que il faut dire les choses comme elles sont. Cette majorité, c'est une majorité de carton-pâte qui tient avec du scotch et des trombones. Et donc, c'est pas difficile de la déchirer. Et donc, il faut être aussi un chef de la majorité.
Alain, si vous vous rappelez nos échanges, je me disais que ce n'était pas un Premier ministre comme les autres, parce que pour la première fois, il ne procédait pas d'une légitimité populaire et il ne procédait pas d'une majorité. En vous écoutant, je repensais aux mots de De Gaulle sur Albert Lebrun qui disait « pour qu'il fût chef d'État, encore eût-il fallu qu'il soit un chef et qu'il reste un État ». Eh bien, pour qu'il fût chef de majorité, il faut qu'il soit un chef, mais encore faudrait-il qu'il y ait une majorité. Et on devrait commencer par ça. Il n'y a pas de majorité, c'est-à-dire qu'il y a un groupe minoritaire, et je crois qu'il n'essaie pas d'être le chef de cette minorité, parce que de toute façon, on aura bien compris qu'entre le calendrier de Gabriel Attal, le calendrier des différentes composantes de l'ancienne majorité macroniste, Laurent Wauquiez qui démontrait aussi qu'il ne rejoint pas sur le fond, et c'est ça qui se passe aussi, ses anciens adversaires, je pense que Michel Barnier se concentre sur l'activité gouvernementale. Après, effectivement, l'idée, je vais quand même défendre ce qui s'est passé, l'idée de conclure des accords séparés avec les différentes composantes en disant, vous, votre priorité, c'est les retraites. Eh bien, c'est vous qui annoncerez que sur les retraites, on vous a donné des concessions. Gabriel Attal, visiblement, c'est sur les cotisations patronales. Après, il y a peut-être...
C'est beaucoup moins populaire.
Non, mais écoutez, c'est pas ma faute, c'est pas la faute si les macroniens préfèrent parler au patron et la droite préfère parler aux retraités.
Alors d'abord, tout le monde voudrait protéger les retraités, et la réalité, c'est que c'est pas eux qui sont les bénéficiaires de ce qui vient de se passer, les retraités. Ça, c'est bien clair. Et que quand Laurent Wauquiez à la télévision explique que grâce à lui, ils vont être protégés, non. Ils vont pas y gagner, les retraités. Hein. Ils vont y perdre...
Quelques dizaines d'euros par mois.
Ben oui, mais pour les gens qui sont les plus défavorisés, c'est quelque chose qui compte. Il faut pas raconter d'histoire, mais il faut reconnaître que Wauquiez, qui a un culot incroyable, mais s'y est bien pris de son point de vue, mais que Barnier, en choisissant de faire le premier pacte avec Laurent Wauquiez, qui en plus est, comme vous le savez très bien, très impopulaire chez toutes les autres composantes de cette fausse majorité. Ça complique
vous
les choses.
Vous persistez à l'appeler majorité.
Non, mais je dis fausse majorité parce que évidemment c'est compliqué de dire sans arrêt socle commun parce que ça.
Il n'y a pas de socle. La réalité, c'est qu'il n'y a pas. Voyons les choses. Il n'y a pas de socle commun. Il y a un gouvernement commun. Il y a une colocation gouvernementale. Ça oui, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des partis qui ont des représentants au gouvernement, mais il n'y a pas eu de réflexion préalable à la constitution du gouvernement pour dire voilà la politique qu'on va mener.
Écoutez, la situation de la majorité, c'est celle de la Confédération germanique avant Bismarck, c'est-à-dire une série de petits États les uns à côté des autres, se détestant, obligés d'avoir des points communs mais se détestant, et n'ayant pas vraiment un chef qui les entraîne. Puis ensuite, il y a Bismarck, c'était autre chose. Et là, c'est pareil. On a des composantes.
Ce qui veut dire que les jours de Michel Barnier sont comptés, là, depuis l'exercice budgétaire de ce qu'on a vécu
hier. Non, parce que comme chef de gouvernement, je répète, comme chef de gouvernement et sur le budget, il s'y est bien pris.
Parce que vous avez reconnu sa stratégie, effectivement, mais que la majorité n'est pas compacte.
Mais c'est pour ça que c'est pas du tout artificiel dans mes yeux. En tout cas, quand je dis c'est un chef de gouvernement habile, oui, là, il était habile avec le budget, et c'est un chef. Alors, je reconnais que l'expression chef de majorité, je reconnais ce que vous dites. C'est pas la bonne expression.
Non, mais je pense pas qu'on puisse lui reprocher. Il a hérité d'une situation. Il a décidé de prendre.
Il est pas mécontent d'en avoir hérité.
Il a décidé.
Faut reconnaître ça.
Il était candidat.
Excusez-moi. L'attente à héritage était bien moins attrayante qu'il y a quelques années quand on devenait Premier ministre.
En fait, c'est pas fait dire 10 fois.
Mais, oui. Il y a des successions. La succession Macron, croyez-moi, est bien plus lourde. Il y a des frais cachés, Il y a des droits de mutation à titre onéreux dans la succession Macron. Et on n'a pas fini de les payer, croyez-moi.
Mais là, on parlait de Barnier,
Non, mais moi, je parle de la succession parce qu'il prend la succession d'un héritage politique. Et je pense qu'on peut pas lui reprocher, si vous voulez, de ne pas avoir de majorité. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il n'y a pas de majorité. Sur l'activité gouvernementale, il fait avec ce qu'il peut. Il n'a pas de majorité, effectivement. Alors, on va dire, mais c'était peut-être pas bien.
Mais il fait le sale boulot. J'ai envie de dire que finalement, tout le monde est content que ça soit lui.
Oui.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de coups à prendre.
Et puis, par exemple, regardez ce qu'il a annoncé sur le candidat de la droite et du centre. D'un côté, effectivement, il y a cet épisode avec Laurent Wauquiez, et puis de l'autre, il dit il faudrait qu'il y ait un candidat unique. Donc,
il joue ça devant les députés aujourd'hui.
Voilà, il joue aussi son rôle.
Il faudrait un candidat unique du centre et de la droite pour la présidentielle.
Il essaye de faire respecter son environnement. Moi, je pense pas. Je pense que le message, c'est de dire le socle commun a un avenir. Il doit durer 3 ans puisqu'il doit déboucher sur un candidat qui va nous permettre d'éviter les extrêmes.
Mais Alain, vous dites que Michel Barnier est là pour durer, en fait?
Ah, moi, c'est ce que ma thèse depuis le début, alors que pour commencer, la plupart des gens se disent il est là pour 3 semaines, peut-être 3 mois, mais pas plus. Moi, je pense qu'il a vraiment des chances, pas des garanties, évidemment, mais des chances de tenir jusque à l'été prochain. Après, ça devient plus aléatoire, mais peut-être. Parce que jusqu'à l'été prochain, parce que c'est à partir de l'été prochain qu'il redevient possible de dissoudre l'Assemblée nationale.
Et donc de censurer.
Bon. Donc, je pense qu'il peut tenir jusque-là, et on ne sait pas, peut-être après. D'autant plus qu'il n'y a pas de solution évidente.
Il y a des élections municipales qui vont arriver aussi. Donc,
l'année suivante. Autrement dit. Il y a des facteurs, et je répète, je trouve que comme chef du gouvernement, il s'y prend habilement. Mais je reconnais que le terme de dire majorité, c'est pas un bon terme. Il y a une coalition de gens différents.
Même la coalition.
Minoritaire.
Je vais vous dire, des malgré.
Attendez, moi j'ai lu quand même dans la presse que on était au bord de la rupture, qu'on ne supportait pas le mauvais coup de Laurent Wauquiez, notamment les partisans de Gabriel Attal.
Il faut voir dans cette affaire.
Et que les macronistes se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette galère?
Il faut quand même voir dans cette affaire que le Rassemblement National n'est pas si mécontent parce qu'il se retrouvait peut-être à devoir gouverner et il savait très bien que la situation était terrible, il n'avait pas les compétences. La gauche n'est pas si mécontente parce qu'elle se dit finalement nous sommes en train de nous refaire une espèce de virginité sociale en nous opposant à un gouvernement qui représente tout ce que nous ne sommes pas. Les macroniens ont quelque part échappé au pire, ils devaient disparaître, ils se retrouvent encore au gouvernement avec une parcelle du pouvoir. et la droite, je serais mal placé pour le dire, mais enfin, nous n'étions pas les mieux partis pour devenir Premier ministre. Enfin, en tout cas, pour que nous ayons des ministres. Donc, dans cette affaire, les gens, effectivement, sont condamnés à vivre ensemble, quelque part condamnés à assumer leurs responsabilités, parce que, vous avez dit tout à l'heure, les retraités, la réalité qu'il faut dire aux Français, c'est que dans le contexte aujourd'hui de la crise financière, de la crise industrielle, de la crise de l'emploi, de la crise de l'agriculture, les cadeaux gratuits n'existent pas, et ce gouvernement n'a pas les moyens de les faire, et de toute façon, le sujet n'est pas de savoir, je dirais, si on va faire des efforts, nous devrions tous faire des efforts à due proportion de nos revenus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut mettre, c'est de l'équité dans les sacrifices nécessaires pour redresser ce pays.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, mais pour au moins la moitié, et en réalité les deux tiers des retraités, ce ne sont pas des privilégiés, tant s'en faut. Bon, alors pour les autres, pour les autres, il y aura sûrement ceux qui sont plus privilégiés, il y aura mieux à faire. Mais pour en venir...
Il n'y a pas que les retraités, il y a des gens qui ne sont pas privilégiés.
Les retraités, c'est quand même déjà une partie importante de la population.
Il y a aussi des 17 actifs millions.
Mais oui, ce sont ceux qui votent le plus, et en plus, ce sont ceux dont le poids dans la population ne cesse d'augmenter.
C'est vrai.
Oui, donc
c'est un budget de 400 milliards aussi.
C'est absolument décisif.
C'est un budget de 400 milliards.
Mais alors, je veux en venir, parce que c'est quand même notre sujet, donc quand vous nous fixez un sujet, on le tient.
Oui. Bien sûr.
Pour Barnier, l'accumulation des risques qui existent en ce moment, avec... les plans de licenciement, on voit bien la mobilisation agricole, avec l'arrivée de Trump et tout ce que ça peut impliquer de nouveau, y compris en Ukraine et y compris pour les Européens, avec la politique commerciale qu'il veut mener. Je pense que il n'y a pas des candidats qui se précipitent de toute façon pour le remplacer. Et que il est d'une certaine manière consolidé politiquement par l'accumulation des difficultés économiques qui se préparent.
Oui.
Bon. Et donc, il a des chances de durer, mais de durer à cause de la difficulté du moment.
Oui. Enfin.
Bon. Et s'il dure, la question de savoir qui sera candidat à la présidentielle, etc., ça attendra un peu parce que au moment où le chômage va forcément augmenter, au moment où les agriculteurs sont furibards, au moment où les retraités sont inquiets, etc. Oui, ça va l'aider.
Mais je voudrais quand même pointer. D'abord, il y a un élément qui, à mon avis, peut changer la donne. C'est ce qui arrive en ce moment au Rassemblement national. C'est-à-dire que je pense que si Marine Le Pen s'aperçoit qu'il y a une espèce de cabale judiciaire pour l'empêcher de se présenter, et donc, aux yeux d'ailleurs de millions d'électeurs qui ont voté RN, fausser quelque part le match de 2027, je pense que ça peut changer la logique des acteurs en précipitant un calendrier. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est un peu choquant, c'est que gouverner, c'est effectivement gérer des difficultés, c'est pas une partie de plaisir, même si la plupart des gens voient les côtés positifs des choses. Et donc, c'est un peu triste de se dire qu'il ne pourrait pas y avoir d'alternative à Michel Barnier parce que tout le monde serait content qu'en réalité, il y ait quelqu'un pour faire le sale boulot.
Je vous ferai remarquer, c'est ce que vous disiez il y a 5 minutes.
Non, toute la classe politique devrait être consciente que dans le contexte de crise extrême, et moi je vois surtout la crise des agriculteurs dans un département comme le Vaucluse, la crise industrielle qui ne fait que débuter, la crise financière, on a absolument besoin, et c'est ça le drame, c'est qu'on se retrouve avec un pouvoir politique étriqué sur sa base de légitimité alors que les défis n'ont jamais été aussi importants. Et donc ça pourrait plaider justement à un moment donné pour une clarification. C'est-à-dire que est-ce que Michel Barnier et son gouvernement vont avoir les moyens, tous les moyens, moi je pense qu'ils ne les ont pas, sur un certain nombre de sujets, les moyens institutionnels et politiques de lutter et de rétablir la situation. Moi,